Découvrons ensemble un média d'information, l'école branchée. Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Bien plus qu'un site, l'école branchée est une ressource venue tout droit du Québec. Et pour le découvrir, eh bien autant faire appel à Audrey Miller. Bonjour Audrey, comment vas-tu?
Bonjour François, ça va très bien, merci.
Eh bien, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs.
Oui, avec plaisir. Donc, Audrey Miller, moi je suis présentement donc directrice générale à l'école branchée. J'agis aussi comme éditrice du magazine. Ça fait très longtemps que je suis dans le milieu, au-delà de 20 ans maintenant. Mais j'aime dire que l'école branchée, ça demeure une vieille start-up en fait, parce qu'on est toujours en action avec des nouvelles idées, à vouloir faire briller ce qui se fait de mieux et tout ça. Moi, personnellement, ça fait depuis 2012 que j'ai vraiment repris la direction de l'école branchée. Mais avant, j'avais quand même eu l'occasion de participer un petit peu à son historique dans mes premières années, dans les années 2000, oui.
Voilà, donc on note bien le petit accent du Québec,
oui.
Qui est vraiment adorable. Alors, il paraît aussi que tu adores les lapins.
Oui, justement, j'ai mes lapins à côté de moi qui me soutiennent tous les jours.
Alors, d'où est venue l'idée de l'école branchée?
C'est une bonne question. En fait, l'école branchée, les premières activités en fait, qui ont mené à ce que c'est aujourd'hui, ça date de 1996. Alors, ça fait quand même plus de 25 ans. Et à l'époque, les deux créateurs étaient des enseignants. Donc, il y avait un enseignant du secondaire et un enseignant ici, on appelle ça le cégep. Donc, ce sera l'équivalent de lycée, c'est de l'enseignement supérieur, en fait, qui s'étaient un peu donné comme folle mission, disons, de recenser tout ce qui se faisait à propos d'éducation sur le web. Donc, en 1996, on revient quand même très loin en arrière. Le web, c'était...
Tout début, là.
Oui, exactement. Ce n'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'était possible de dire, dès qu'il y a quelque chose qui se fait en éducation, on est capable de le voir et d'en parler. Donc, le premier site web s'appelait l'Infobourg. Et carrément, c'était pour mettre en valeur toutes les ressources de l'éducation sur le web. Évidemment, après quelques années, je dirais pas plus que deux, ils se sont rendus compte que c'était impossible de tout recenser. Mais malgré tout, ils ont gardé leur rôle de vigie, de veille, de critique même. Et je pense que ça a influencé vraiment beaucoup l'évolution des usages du numérique en éducation.
Alors, pour les auditeurs, l'école branchée, donc c'est, j'ai repris les chiffres du site, hein, plus de 40 000 enseignants qui reçoivent le magazine École branchée et les guides d'activité numérique Scoop chaque année. C'est aussi plus de 2400 pages qui ont été vues sur le site en 2021 par plus de 900 000 visiteurs. Un rêve pour moi. Plus de 1500 enseignants, direction et conseillers pédagogiques formés en Créacan l'an dernier. Donc, c'est bien plus qu'un site, hein, puisqu'il y a une revue, il y a donc le site web, la revue, et puis les Créacan, donc qui sont des centres de formation en quelque sorte. Alors, j'ai deux questions. Quelle est la force de l'école branchée?
Bien, la force, en fait, je pense que c'est son côté indépendant et rassembleur. Donc, le fait qu'on ne soit pas attaché spécifiquement au milieu scolaire, mais qu'on fasse partie de l'écosystème, en fait, ça nous donne cette possibilité-là de rassembler à la fois les intervenants du primaire, du secondaire, à la fois les enseignants, les chefs d'établissement, le privé, le public, tous ces acteurs, ces forces de l'éducation, finalement, nous, on peut aller se mettre en relation avec eux et faire briller un petit peu ce qu'ils font à travers nos pages. Et c'est vraiment ce qu'on se donne comme mandat. Faire circuler de l'information positive en éducation, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui fait notre grande force. Et aussi, comme on est dans l'univers du numérique, Le numérique peut faire peur à plusieurs personnes, peut avoir l'impression que ça dénature les relations humaines, et pourtant, c'est ce qui est si important en éducation. Donc, nous, on se fait un devoir de mettre l'humain devant la machine en tout temps. Et je pense que c'est ce qui fait notre grande force, la bonne écoute et la bonne réception qu'on reçoit là, dans presque tous les milieux, en fait.
Et alors, il y a une question qui me vient, le numérique au Québec est plutôt bien implanté, enfin bien développé.
Oui et non, c'est une question toujours à double tranchant. Donc, on a la chance d'avoir quand même des impulsions de financement du côté du ministère de l'Éducation ici qui ont beaucoup, beaucoup aidé. Donc, on est sous le chapeau, si on veut, d'un plan d'action numérique qui était sur 5 ans, mais qui s'achève l'année prochaine. Et ce plan d'action numérique-là a permis d'investir des sommes vraiment importantes là, par rapport à tout ce qu'on avait vécu par le passé. Ça a permis aux écoles d'être dotées d'appareils numériques portables, d'équipements de robotique et des équipements de laboratoires créatifs, donc toute réalité virtuelle, environnement 3D, ces choses-là. Ça a donné un très grand coup de pouce puisque ici au Québec, en fait, les équipements sont vraiment fournis par les écoles et non par d'autres structures. Donc, ça prenait cette impulsion-là. La pandémie est arrivée, donc on avait quand même la chance d'avoir la disponibilité de pas mal d'équipements, mais ce n'est pas parce qu'on avait la disponibilité que les usages étaient nécessairement bien développés. C'est sûr que c'est très vaste ici. On n'a pas une énorme population, mais reste que c'est très vaste et ça a été... justement pas toujours équivalent comme déploiement. Il y a des milieux où ils sont très avancés, des milieux où ça tarde encore. Mais malgré tout, on a quand même les conditions gagnantes, je dirais, pour pouvoir développer encore plus.
Et quels seraient les freins pour un chef d'établissement au Québec pour développer des projets numériques?
En fait, c'est beaucoup, je parlais de l'humain et des relations, là, mais c'est vraiment ça, même pour les chefs d'établissement, c'est de s'assurer de jouer un rôle de leader dans son équipe, parce que si le chef d'établissement lui-même ne croit pas tant au numérique, ça va être très difficile de s'attendre à ce que l'équipe ait le goût d'embarquer. Et au contraire, si l'équipe est très motivée par le numérique, il faut que le leader puisse les suivre et les encourager, parce que c'est vraiment ce qui va être des facteurs de succès. Il y a beaucoup de choses à gérer en tant que chef d'établissement, c'est certain. Fait que c'est pour ça aussi que c'est parfois une bonne façon de faire, d'aller chercher certains enseignants, par exemple, qui seraient plus motivés, donc qui pourraient devenir des référents numériques et de se fier un peu plus à eux, de leur donner l'espace et la latitude de pouvoir prendre ce rôle-là. Mais très important de les appuyer, c'est vraiment le facteur de succès. Pour les chefs d'établissement qui sont moins à l'aise et tout ça, ben, je pense qu'il y a moyen de se renseigner, d'aller chercher de l'appui. En tout cas, au Québec, on a des associations de chefs d'établissement qui sont très dynamiques sur ce point-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller chercher l'appui de collègues et elle est là, l'aide, elle est disponible vraiment.
Et donc, c'est peut-être aussi la même chose pour les enseignants. Il y a toujours ceux qui vont être un peu à la pointe et puis les autres. Ouais. Et les créacans sont là aussi pour ces enseignants-là.
Oui, exactement. Dans le fond, c'est sûr qu'avec le volet média de l'école branchée, donc on fait une veille, on fournit beaucoup d'informations. Mais après, pour mettre ça en pratique, on s'est rendu compte que c'était une demande des milieux. Ils nous voient aller, là, on leur propose plein de bonnes idées, mais ils disent « OK, mais pouvez-vous nous accompagner là-dedans ou nous donner un coup de main pour démarrer? » Donc, c'est ce qui a fait qu'on a fondé notre service de formation en 2017 maintenant, les Créacans. Donc, les Créacans, c'est une formule qu'on voulait un peu différente des formations habituelles. C'est des formations donc qui sont vraiment main sur les touches, c'est-à-dire carrément dans l'action, avec les appareils en main, on essaie, on veut créer. Et on essaie de s'éloigner le plus possible du modèle. J'ai un expert en avant qui me dit quoi faire et ensuite je retourne et je fais comme « Oh, je ne suis pas capable de faire par moi-même ». Donc, on va plus appeler nos formateurs des facilitateurs. Ils vont mettre en action les participants, leur lancer des défis, leur permettre de se tromper, de réessayer, de poursuivre et de bâtir quelque chose. Donc, c'est vraiment la formule qu'on a adoptée. Ça a beaucoup de succès, même au niveau des chefs d'établissement. Donc, on a déjà fait des éditions spéciales pour eux qui leur ont permis de toucher à ces appareils-là, mais aussi de créer, parce que nous, on travaille beaucoup l'univers du numérique. On dit l'ère du numérique, mais l'ère du numérique, ça comprend plus que les outils, ça comprend plus que les applications et que les appareils. C'est toute une nouvelle façon d'entrevoir l'enseignement, d'entrevoir la direction d'une école, d'entrevoir tout ça. Donc, on s'y attarde beaucoup en Créacamp.
Oui, c'est intéressant, ça. C'est l'ère du numérique, c'est pas que les outils, c'est pas que etc. C'est un ensemble de choses, une vision de l'enseignement et même de la gestion des écoles. Et ça se traduit comment pour les chefs d'établissement?
Ben, en fait, c'est qu'ils sont confrontés, ben, pas confrontés, mais en fait, ils sont face à une génération d'enfants, par exemple, qui n'ont jamais vécu l'ère pré-numérique. Donc, toutes sortes de façons qu'on a comme adultes d'entrevoir certains aspects de la vie, des relations et tout ça, qui font aucun sens pour eux dans leur perspective de jeunes. Par exemple, je pense au fait d'interdire les portables à l'école. OK, mais c'est peut-être pas toujours la solution la plus rentable à long terme, parce qu'au contraire, on devrait en profiter pour éduquer, pour montrer les écueils, montrer les avantages. En tout cas, ça, c'est ma perception. Je sais que ça ne rejoint pas tout le monde, évidemment. Mais aussi ensuite, c'est considérer le fait qu'on a beau mettre en place des programmes pour lutter contre l'intimidation, mais il ne faut surtout pas oublier que cet univers numérique-là va se poursuivre à l'extérieur de l'école. Donc, il faut toujours penser à... C'est plus maintenant la vie réelle et la vie numérique s'est rendue tout intégrée. Donc, on n'a pas le choix en tant que milieu d'enseignement, milieu de vie pour les jeunes de s'y intéresser et de faire en sorte que ça soit intégré dans toutes nos façons de voir. Donc, c'est un petit peu de ce côté-là que je dis que ça change beaucoup le rôle aussi des chefs d'établissement autant que des enseignants. Même si on aimerait des fois ne pas avoir à s'en mêler puis laisser ça à l'extérieur, c'est pas possible, c'est juste pas possible.
Tout à fait d'accord, oui. Ça, on est confronté de toute façon à ces problématiques-là qui, au final, moi je parle toujours, je prends toujours cet exemple des insultes. Je dis c'est même plus simple aujourd'hui quand c'est numérique, parce qu'on fait une capture d'écran et on voit ce qui a été dit, qui a dit quoi, etc. Alors qu'une insulte sur une cour de récréation, il n'y a jamais de témoin, on ne sait jamais ce qui s'est passé, etc. Et voilà. Et puis ça arrive aussi en dehors de l'école. Et voilà. Donc c'est peut-être plus facile d'éduquer au final avec le numérique. Bien, bah merci beaucoup pour toutes ces informations. Comment on retrouve l'école branchée?
Ah voilà, c'est vraiment très simple. Alors, en ligne, écolebranchée.com, c'est notre porte d'entrée. Vous allez pouvoir y découvrir le magazine. D'ailleurs, c'est possible de s'abonner même en Europe. On a beaucoup d'abonnés européens et on est très fiers de leur envoyer les nouvelles parutions à chaque trois fois par année en ce qui concerne le magazine. Et sinon, on a aussi des nouvelles, files de nouvelles hebdomadaires sur le site qui diffusent un petit peu ce qui se passe chez nous, parfois chez vous aussi. En passant, je lance l'invitation officiellement à vos auditeurs. Si certains ont envie de faire connaître des beaux projets qui se vivent dans leurs établissements, on est toujours ouvert à faire circuler cette information-là. Si ça peut inspirer d'autres gens, c'est ce qu'on souhaite le plus possible. Nos créacans sont maintenant, on a une partie en virtuel. La pandémie nous a un peu obligés à s'adapter à ce mode-là, nous aussi, puisqu'on se faisait un devoir d'être toujours en présence avant. Mais là, on a développé le côté virtuel et les enseignants de partout sont invités. Quand on a des dates annoncées, là, vous pouvez vraiment vous joindre à nous. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir.
Super. Et toi, on peut te retrouver où?
Aussi dans l'univers numérique, assez simplement. Vous pouvez aussi me suivre, bien sûr, sur Twitter. Surtout, c'est beaucoup la Twitter, LinkedIn, pour si vous voulez connecter avec nous, il n'y a pas de problème.
Je mettrai les liens dans les notes.
Parfait, excellent.
Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. J'espère que ça va éclairer un petit peu aussi les collègues.
Avec plaisir. Et si vous avez envie de nous contacter, n'hésitez surtout pas. On a une belle équipe qui est prête à vous aider et vous appuyer.
Super. Un grand merci pour ton écoute. Je suis François Jourdain et chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Tu souhaites recevoir une fois par mois un texte ou un document que j'ai créé sur des sujets divers, abonne-toi à ma liste de diffusion. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode et sur mon site. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement, parce que gérer une école c'est bien, mais partager c'est mieux et ça rend heureux.